Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au 11e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Galaxy Quest, la comédie sci-fi de 1999. Ça s'en ressemble beaucoup, les deux contiennent évidemment beaucoup de...
Biu, 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 biu.
Bonjour tout le monde, ici Mathieu Bonin, en compagnie de Danny Gravel.
Hey, salut!
Et de Jean-François Laporte.
Salut, salut!
Comment ça va les gars?
Ça va bien, ça va bien.
Ouais, que ça a fait de beau cette semaine.
On appelle T.
On appelle... Non, j'ai dit de beau. J'ai dit de beau.
Mange la dinde.
Chier de la dinde.
Chier de la dinde.
Puis du ragoût.
Chier du ragoût. Bon, okay, mais outre ça, tu sais ce qui est écrit dans les notes, Dan, qu'est-ce que t'as fait de beau cette semaine?
Ben écoutez, hein, j'étais en congé cette semaine. C'était la période des fêtes. Mm-hmm. Donc j'ai eu une permission spéciale. J'ai pu brancher mon SNES dans le salon. J'ai dépoussiéré mon vieil écran de Commodore 64. J'ai pas de console, j'ai juste un vieil écran. Ça devait faire 10 ans qu'il était dans l'armoire, dans le garde-robe, puis je l'ai branché. Ça marche comme un œuf. C'est un bijou. C'est merveilleux. J'aime tellement ça, les vieilles affaires là, qui fonctionnent mille fois mieux que tout ce qu'il y a de récent. Là.
C'est, ta blonde aimerait ça pouvoir dire ça de toi.
Oui, je sais, mais je suis pas assez vieux pour
mais
bien fonctionner.
Tu te sers de ton écran de Commodore comme écran de télé, tout
simplement. Comme écran, dans le fond, pour brancher mon SNES dans ce cas-là, puisque j'ai branché mon SNES.
Ça doit être clean, ça.
Comment?
Visuellement, ça doit être très
Visuellement, c'est extrêmement beau. Là. Pour vrai, là, tu peux. En plus, les couleurs s'adaptent par des petits boutons, là, des boutons physiques, finalement. Fait que tu peux vraiment là, mettre ça. Là... Non, c'est assez particulier. Pour vrai, là. Les rétro gamers un peu puristes aiment le setup. Puis, tu
sais. Quelle grosseur, ça, déjà?
Surtout, vrai, un 13 pouces, peut-être 15 pouces, dans ce truc-là. Là.
Bon, t'es habitué. Moi, ma TV rétro, c'est genre, c'est quoi, c'est une 17, là.
Non, puis, oui, dans le temps, on n'a pas regardé.
Moi, je mettais ça. Tu sais, j'ai une place plus longue sur mon sectionnel, je mettais ça au bout, là, puis j'étais quasiment assis dedans, là, fait que c'est comme j'avais une grosse télé.
Fuck la VR, j'étais assis dans mon SNES.
Dans mon SNES sur mon écran de Commodore 64. Bref, j'ai joué à Mario RPG, que ça faisait longtemps que j'avais pas joué, puis je me suis rendu compte que je m'étais souvent rendu à la fin, mais je pense que j'avais jamais vraiment fini le jeu pour un paquet de raisons. Là. Genre, c'était pas à moi, je l'avais loué ou des trucs comme ça. Fait que je l'ai fait, je l'ai fini, j'étais assez content. Je me rappelais pas que le jeu était si court, à moins que c'est parce que j'ai beaucoup joué en peu de temps.
T'as-tu ton playtime à peu près? Ou...
Il a pas de playtime dessus, puis j'ai pas pensé de faire attention à ça, là, vu que je jouais souvent sans faire d'autres choses, je jouais un peu en écoutant de la télé ou des trucs de même. Mais non, bon, c'était un beau petit, belle petite période de jeu rétro, mais c'est pas mal ça, en fait, pour mon temps des fêtes. Sinon, comme j'en parlais la dernière fois, j'ai été sage, finalement, le Père Noël m'a amené mon Steam Link que j'avais demandé.
Dans le fond, tes deux premiers points de ta semaine, c'est Christine. Dans le fond, c'est ta copine.
Oui, exactement. donc, Steam Link, fait que j'ai pu continuer de jouer à Mercenary Kings, que j'avais commencé autrefois. J'aime vraiment le jeu encore. C'est satisfaisant comme petit jeu. Puis j'ai aussi joué avec ma blonde, justement, avec Christine.
Justement.
un peu de jeu co-op. Never Alone, je vous en reparle tantôt. Puis j'ai commencé un peu Costume Quest, là, qui n'est pas un jeu qui se joue à deux, mais qui visuellement l'avait intéressé en disant « Tiens, joue-le un peu à ça, je vais voir ça a l'air de quoi. » Puis j'ai quand même pas mal joué. Ça se peut que j'en reparle. C'était un jeu... c'était assez le fun. Pour
ne jamais sous-estimer l'attrait d'un jeu cute pour qu'une fille soit intéressée. Hein.
Donc, Costume Quest, que j'ai un peu joué aussi, qui a l'air assez intéressant. Sinon, ben c'est sûr, j'ai passé du temps sur mes classiques, un petit peu de War, un petit peu d'Hearthstone. Voilà. Sinon, petite mise à jour.
Monsieur Justin J.P. Trudeau.
Just watch me.
En fait, c'est dans les fêtes, hein. Il se passe rien en politique. Tout est arrêté. J'avais juste le goût de mettre mon segment, mon thème. Non, pour vrai, petit shout-out à notre premier ministre, là, pour ceux qui auront suivi les revues de l'année, qui a fait et gagné une course de BB-8 téléguidée avec Jean-René Dufort.
J'avais pas vu ça à Infoman.
Oui, ouais, à Infoman, le spécial d'année.
Je l'ai dans ma liste. Spoilers. Non, je l'ai dans ma liste de trucs à écouter parce que j'ai pas eu le temps de toucher à ça.
C'est excellent. Mais dans le fond, Justin Trudeau était quand même un grand fan de Star Wars. Puis un petit shout-out au Bye Bye, justement, qui a fait son segment sur Justin Trudeau et sur Star Wars en mash-up. Là. Fait que, ils ont pris comme un peu des éléments du trailer de Star Wars The Force Awakens. Là, donc, pas de spoilers là, mais avec en intégrant Trudeau et des trucs comme ça. C'est assez intéressant. C'est assez comique. Là. Fait que, c'est le petit shout-out à Trudeau de cette semaine. Mais sinon, hein, c'est la politique est en arrêt.
Voilà. Alors, de mon côté, on va commencer par donner une punition à Dan pour manque de rigueur. À 1h08min37s de l'épisode 10, on entend l'extrait.
Dans les autres jeux, qui est peut-être un peu plus connu, mais que la thématique Noël est moins importante, Donkey Kong Country 3 au SNES en 94.
Et voilà, mais malheureusement, Donkey Kong Country 3 est sorti en 96, pas en 94.
Mais oui, j'accepte la punition.
Rigueur, Danny, rigueur.
On est rendu intense avec même des... des segments, de nos anciens segments. Hein, c'est quelque chose.
segment.
Moi, j'ai essayé de me défendre quand j'ai appris ça en disant « Ah, oh, je pense que je l'ai lu sur un site que c'était pas fiable. » Pas en tout. C'est juste que je sais pas lire. Le site que j'avais pris était fiable. C'est moi qui l'ai pas.
Voilà. Fait que c'est mon collègue Jean-François Pitre qui a relevé l'information. Il a pas eu à le chercher, il savait par cœur, ce qui est quand même intense. Mais merci, Jeff.
Je savais me faire remplacer.
Donne-nous pas d'idée. Fait que j'ai fait quelques achats pendant la vente Steam, parce que Steam, j'ai dépensé à peu près 2,75$, fait que j'ai 25 jeux.
Ah, c'est pas plus.
Non, ça m'a coûté comme 15$.
T'as pris des jeux chers, finalement.
Exact. Là, ça m'a coûté 15$, j'ai ramassé une coupe de jeux, évidemment. Fort probablement du matériel pour les prochains pods. J'ai découvert le compte Twitter de Emo Kylo Ren que j'ai partagé à mes collègues.
Belle découverte.
Puis il y a aussi, cette semaine, il y en a un nouveau qui est ouvert.
Danny m'en parlait justement.
Le Lonely Luke Skywalker.
Exactement.
A Very Lonely Luke.
Mais j'aimerais relever le tweet qui m'a fait découvrir Emo Kylo Ren et qui m'a indiqué qu'il fallait absolument que je m'inscrive. Et c'était... Vous n'avez jamais entendu le marché impérial tant que vous ne l'avez pas entendu en vinyle. J'ai dit, OK, fuck it, follow. Ça me prend ce compte-là. On a eu le droit, évidemment, Mike Tyson qui se pète la gueule sur un overboard.
Ah, si vous n'avez pas vu ça, sérieusement, là, googlez ça, ça vaut la peine. Là.
Suite, dans le fond, c'est un peu de follow-up à l'actualité.
Ah oui, sur le swagway.
Ben oui, voilà, du swagway, bien sûr. Et j'ai le seul jeu que j'ai vraiment joué finalement pendant mes vacances, ça a été Zigzag, qui est un petit crisse de jeu sur Android où ce que tu fais tasser une boule de gauche à droite sur un chemin. Beaucoup trop joué parce que j'avais une compétition amicale avec une amie, puis elle a malheureusement abandonné parce que j'ai comme pogné un
son amitié, tu parles qu'elle a abandonné ou le jeu?
On va voir pour la suite.
Mais avec le gap entre les points, c'est possible.
Ouais, c'est ça. Elle pourrait m'en vouloir longtemps. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment le seul genre jeu de bol de toilette que j'ai joué pendant les deux dernières semaines. Là.
Mais... c'est suite au ragoût puis à tout ça.
J'ai eu beaucoup de temps pour jouer.
Mais pour l'Overboard de Tyson, moi, je pense que j'ai plus ri l'espèce de mash-up que quelqu'un a fait, le vine que quelqu'un a pris de Mike Tyson qui se plante sur l'Overboard. Puis qui rajoute les sprites de Punch-Out comme si c'était Little Mac qui slappe un uppercut puis qui tombe à terre. Oui, j'ai vu passer aussi un autre où est-ce que c'est un lutteur qui fait une passe.
RKO,
c'est assez drôle. Là,
le
c'est...
fameux RKO. Pis... Fait que c'est tout pour moi cette semaine. Jeff?
Ben écoute, moi, suite à notre achat impulsif là, du dernier épisode, quand on s'est tous acheté le bundle...
Pourquoi tu me pointes?
C'est ta faute. Ben, ça vaut que t'es cher, c'est pas super. Tu me coûtes pas trop cher. Ben, j'ai testé Crosscode, en fait. Fait que super intéressant. Fait qu'encore là, on avait glissé un petit mot rapidement, mais à essayer si ça vous intéresse.
Puis tu confirmes, moi j'avais plus joué avec clavier-souris. Toi, t'as joué avec un gamepad.
Moi, j'ai joué avec le gamepad. Puis effectivement, comme tu dis, le clavier-souris, c'est peut-être plus précis. On en parle un petit peu, mais quand même super agréable avec le gamepad aussi.
Good.
Fait que, à suivre. J'ai réouvert. Je sais pas, c'est une bulle qui m'a popé. J'étais assis dans le salon tout seul. Je disais à quoi je joue, ça me tente de jouer à quelque chose de vieux. Fait que j'ai redownloadé et joué encore à Super Meat Boy.
On appelle ça comment dans ce temps-là? C'est-tu du rétro indie rétro gaming?
Rétro indie rétro gaming.
Ben,
retour vers le. Non, c'est correct.
C'est non. Retour vers le I don't fucking know.
I don't fucking know. Le retour vers il était plate finalement. Fait que. Non, mais Super Meat Boy! Fait que quel jeu excellent! Je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler. Là.
Moi, il est vraiment dans mon top.
La musique, le gameplay, le level design.
C'est pas Papa Cassette qui a posté cette semaine? Qui avait rejoué, qui avait fini ou quelque chose comme ça, il me semble, ça me dit.
Ouais, j'ai pas marqué.
Moi, c'est vraiment, c'est facilement un des jeux de mon top 10 à vie. Là. C'est encore un autre genre de jeu que t'as comme l'impression qu'il est tailor-made pour toi. Là. Puis Super Meat Boy avec la musique de Danny Baranowski, qui est facilement le CD qui a été le plus longtemps dans mon char. Puis je suis pas du genre à écouter, j'adore la musique de jeu, là, mais de là mettre de la musique de jeu dans mon char, jamais. Ça a roulé sérieusement un an, je pense, non-stop. Écoute, t'as le goût de rentrer dans tout le monde en char, là, mais.
Ben, les vides, de sauter ses murs, de laisser une trace de sang.
Puis... Ouais, ben, c'est tellement un jeu d'essai et erreur, hein. Fait que tu dis, au pire, je me crash, puis je recommence, là. Fait que c'est. Non, c'est
j'avais montré à ma blonde un peu, c'était quoi, parce qu'elle connaissait pas, puis quand elle a vu le docteur fœtus, elle a comme capoté. Ben, non, ouais. Je décroche, là, ça marche pas, c'est pas pour out. Moi, là.
Avec son monocle.
Avec son monocle.
Ben, est-ce que t'avais écouté Indie Game de Movie?
Oui. C'est dans ce cas, il parle beaucoup de fesses aussi dans ce documentaire-là. Là, ouais.
Mais justement, quand tu comprends plus la ramification thématique de ce qu'est Meat Boy puis Bandage Girl, c'est un peu plus sweet finalement.
Oui, quand même.
C'est du trash, mais c'est sweet.
Mais ça me donne le goût de... Surtout avec le Steam Link, là, puis c'est tellement agréable.
C'est un des premiers grands succès de Indie Gaming quand Xbox Live s'est mis à... à lancer ces jeux-là.
Comme j'aime souvent rappeler aux gens qui vargent sur Microsoft dans la scène indie, que la scène indie actuelle est principalement due à Microsoft et au arcade sur l'Xbox 360. T'sais. On aime ça varger, là, ils ont chié ces indies, ils ont eu de la misère au début du Xbox One puis tout ça. Ouais, mais rappelle-toi, c'était quoi avant que Xbox Live Arcade existe? Ils n'avaient pas d'indie sur console.
Moi, personnellement, j'aime tellement ça. Tout le monde qui ont, sont tellement comme fanboy d'une console, d'une compagnie qui bash sur les autres. Puis je pense que toutes les compagnies ont des points positifs, négatifs à d'autres, des moments ou un autre. Là.
Puis aujourd'hui, la plupart des jeux, de toute façon intéressante, sont rendus multiplateformes. Fait que juste jouer au jeu, enjoy.
Et voilà, soyez des gamers, jouez. Ouais.
Ben c'est ça. Fait qu'on a comme un peu bifurqué. Mais pour revenir à ce que je fais cette semaine, j'ai profité un petit peu de la Steam Sale aussi, puis je me suis acheté un jeu que j'avais passé à côté, ben à défaut d'avoir un Xbox en fait. Mm-hmm. J'ai acheté Ori and the Blind Forest.
Et, ouais, j'ai pensé
que j'ai pas joué. Je me le garde, j'attends, parce que moi, j'ai pas été sage cette année, semble-t-il. J'ai eu aucun cadeau comparé à Danny. ou ça avait un rapport avec le fait que j'ai un petit gars de 3 ans. Lui a tous les cadeaux.
Ah, il y a peut-être ça aussi.
Plus de budget pour le père. Mais je vais me gâter, en fait, cette semaine. Je vais aller m'acheter un Steam Link. Et le premier jeu qu'on va jouer sur la Steam Link, ça va être Ori in the Blind Forest. Fait qu'on s'en reparle la semaine prochaine. Prochain épisode.
Je vais garder mes commentaires. En fait, je pense qu'on a parlé de Ori in the Blind Forest, mais vaguement, dans du matériel non publié.
Ah, c'est dans le non publié, ça?
C'était soit dans l'épisode 0 ou dans l'épisode 1. Je crois que c'est dans l'épisode 0 même. L'incident de l'urètre.
L'incident de l'urètre.
C'est juste une joke pour nous autres. On est désolé.
C'était une autre époque.
La journée où est-ce qu'on vous demande de l'argent, là, il sera dans un des buts.
Des buts payés.
Mais bien payant, le 0.
Parce que Danny va perdre sa job.
Mais sinon, dans une expérience de gaming un peu plus... on sait que j'aime beaucoup parler des expériences de gaming un peu différentes. Je pense qu'on va appeler une après-midi de bowling en famille comme du gaming. Mais,
il va reviewer le bowling.
T'as-tu joué ça à Wii ou en vraie vie?
Non, au bowling sur... oui, j'ai dit son
c'est quoi ça,
Barbie.
Des jeux physiques. Ouais, connais pas.
Un jeu physique, moi, c'est...
Alors, cette semaine, je review le bowling.
Semaine prochaine, ping-pong.
Mais non, mais
la
c'est
patience.
Ça. Donc, Cross Cold, Super Meat Boy, Ori et Bowling, ça a résumé le temps de mes fêtes.
Alors, dans l'actualité pour l'épisode 11 de Divan Quest, on a appris, aujourd'hui même, le 2 janvier, date de l'enregistrement, que George R.R. Martin, auteur de la populaire série de livres A Song of Ice and Fire, sur laquelle la encore plus populaire série télé Game of Thrones est basée, a annoncé que le prochain tome de la série The Winds of Winter ne serait pas prêt à temps pour le début de la nouvelle saison de la série télé qui couvrira les mêmes événements que le tant attendu livre. Le livre devait être publié pour la fin 2015, mais M. Martin n'est pas parvenu à achever l'ouvrage dans les délais prévus. Il a également préféré ne pas offrir de date pour la sortie du nouveau livre, les dates butoirs ajoutant de la pression inutile sur ce qui reste, en bout de ligne, un exercice de créativité. Cette suite d'événements placera les fans des livres de la série dans une situation dangereuse, celle où il leur sera maintenant possible de se faire spoiler, ou comme le suggère l'Office québécois de la langue française, de se faire divulgacher. Les surprises de ce nouveau chapitre de la saga, et leur enlèvera, bien que temporairement, le privilège de dire « c'était bien mieux dans le livre ».
C'est un payback.
Mais c'est ça, c'est pire que ça, parce que, tu sais, il y en a qui sont... Il y a des pompins qui s'amusaient à spoiler la série télé pour ceux qui n'ont pas lu les livres. Là, ils sont mieux se former à gueule parce qu'ils vont se le faire spoiler à l'inverse. Là. Mm-hmm, le retour du balancier.
How the tables have turned.
T'as-tu dit table flip? Non,
non.
Mais c'est quelque chose que j'espère qu'ils vont bifurquer et que le show et le livre vont prendre deux chemins différents. Ouais. Ça serait génial.
On s'en parle quand que ça sera fait.
C'est ça.
On apprenait aussi que Game of Thrones est l'émission télé la plus piratée encore une fois en 2015. On apprenait aussi que de l'eau s'est mouillée et que de la neige s'est frette.
Ah, c'est bon.
Voilà. hein, tu sais. Ma source de nouvelles technologies préférées, La Verge, nous apprenait que, suite au Nouvel An à New York, une chier, ce que je présume est le terme désignant un groupe de New-Yorkais, ont pris Twitter d'assaut. Capture d'écran à l'appui pour indiquer leur mécontentement suite à une surcharge des prix Uber, connu en tant que Surge Pricing.
Eh oui, j'ai vu ça passer.
Lors des célébrations du Nouvel An. Les tarifs ont pu grimper jusque dans les 200-300 $ ou jusqu'à 10 fois le tarif standard. Pour mettre la situation en contexte, par contre, okay? Il faut comprendre qu'en 2014, Uber, le service de taxi, pas taxi, qui fait chier les taxis, a paraffé une entente avec la ville de New York, les empêchant de grimper les prix lors des événements de désordre civil ou de convulsion de la nature. Là, je traduis ici très littéralement le texte. Okay? Ces définitions ne regroupaient donc en aucun cas les célébrations du Nouvel An. Cela dit, lorsqu'on place une commande pour les services de Uber, le prix est toujours indiqué dans l'application avant que la demande soit envoyée. Et lorsqu'il y a du surge pricing qui s'applique, l'application demande au client de saisir manuellement le prix résultant pour être sûr qu'il comprenne bien à quoi il s'engage en ces temps de demande anormalement élevés, leur laissant amplement le choix de prendre un taxi ordinaire rendu là.
Ouais, c'est ça.
Mais qu'à cela ne tienne, 2016 aurait commencé de la façon la plus nord-américaine imaginable pour ces véritables croisés des temps modernes, en chiolant que tout coûte trop cher.
Mais... Mais je trouve ça le fun aussi qu'on a encore eu, j'espère que je te brûle pas de nouvelles, sinon ben tant pis. On a encore eu la nouvelle d'un petit gars qui a dépensé genre 5000 US dans l'App Store. Oui.
À écouter Jurassic World.
À chaque année, là, à chaque année, il y en a un. Là.
Je pense qu'il jouait
Jurassic World. Oui, Jurassic World, l'application, là, il boostait des dinosaures, je sais pas trop.
Il boostait des dinosaures.
Des câbles boostés.
Voilà. Oui. J'apprends sûrement rien à personne, mais la semaine dernière est décédé le bassiste de Motorhead, chanteur de Motorhead, à un moment de sa vie, Rowdy Jimi Hendrix, le personnage du Killmaster dans Brutal Legend, parrain fondateur du groupe de Pretenders, accro de speed et collectionneur d'artefacts nazis. Je parle bien sûr de Lemmy Kilmister. Décédé à 70 ans des suites d'un cancer, on s'appellera de lui comme quelqu'un ayant vécu dans l'excès, sans considération pour sa santé ou le bon sens. Et ça fait de lui quelqu'un de plus mémorable. Pas un exemple à suivre, certes, mais un homme à admirer pour l'honnêteté de sa façon de vivre sans excuse. Sa mort est honnêtement un peu trop banale pour la façon qu'il a vécu. Fait que pour moi, il est mort dans l'explosion d'un de ses tanks de sa collection, le chevauchant complètement nu en prenant du speed et en faisant un solo de bass.
Je suis d'accord.
Ça passe.
J'aime cette image.
C'est canon, ça. Et voilà.
Moi, solo de bass.
On apprenait sur Polygon qu'un Japonais, connu seulement par son pseudonyme Twitter de Wanikun, aurait laissé sa Super Famicom, la version japonaise de la Super Nintendo, allumée pendant 20 ans, afin de ne pas perdre sa sauvegarde sur le jeu Umihara Kawase. Le jeu utilise une sauvegarde à pile, technique commune à beaucoup de jeux sur cartouche. La pile de la cartouche de Wanikun est bien évidemment morte depuis longtemps, mais il maintient ses données en vie sur l'équivalent électronique d'un respirateur artificiel depuis 20 ans. Avec un peu de travail, on peut déterminer que la Super Famicom consomme 8,5 watts lorsqu'allumée, ce qui nous donne 0,204 kWh par jour, soit 74,46 kWh par an. Donc, on parle ici de 1489,2 kWh sur 20 ans. Avec le taux actuel de l'électricité au Québec, et en considérant que M. Wanikun est quelqu'un de très économe et ne dépasse pas les 30 kWh par jour, cet exercice de futilité et détermination lui aurait coûté 84,59. La seule chose qui rend ce calcul complètement inutile, c'est qu'en utilisant les données du Québec, il est complètement impossible qu'il ait pu laisser sa console allumée pendant 20 ans sans manquer de courant.
C'est clair.
Hey, mais c'est de... Tu t'es dédié à la cause avec ça?
Ben, écoute, c'est le fun, les maths.
Si tu t'avances, puis tu t'en fâches dans le fil après 19 ans.
Oh. Est-ce parce qu'il n'est pas capable de le finir? Ou...
L'histoire ne le dit pas.
Donc,
en fait, de fois en fois, on est comme...
Il essaie d'attirer l'attention. Là, ça...
Mais non, pas partout.
Tu veux le public est contre toi, là. Tous regroupés dans notre sous-sol.
Dans le garde-robe, tu ouvres la porte. Bouh, tu ouvres la porte.
Vous comprenez pas, vous comprenez pas.
Imo Kylo Ren.
Mais non, mais c'est comme c'est la fin 2015. Fait que là, c'est le game over de Mario Bros.
Ah, tu mournes 2015? OK, en tout cas.
Vas-y donc ta chronique, mais non.
Je paraphrase. Donc, épisode 11, on parle de Her Story. Aujourd'hui, qui est un... Le jeu, en fait, où True Detective rencontre Google.
À ne pas comprendre avec Her Story, avec un tréma, là, qui est l'histoire de Hitler.
Her Story.
Her Story,
Her Story comme son histoire à elle.
À elle.
Donc, qui est littéralement un jeu de détective, en fait, qui a été développé par Sam Barlow, qui est pas nécessairement super connu, mais qui a travaillé sur les versions britanniques de Silent Hills, donc Silent Hills Origins et... un autre Silent Hills.
Rigueur.
Rigueur.
On voit que le temps des fêtes a été difficile.
Mais comme ça, je m'évite des pénalités. Et Her Story qui est sorti le 24 juin 2015, donc bonne Saint-Jean. Hey. La prémisse du jeu, en fait, c'est qu'en 1994, une femme britannique est interviewée 7 fois concernant la disparition de son mari. Fidèle à mon habitude, c'est un jeu, je suis remarqué dans mes notes, j'écris mécanique, lol. Donc, c'est un jeu avec peu de jeux. En fait, c'est plus une sorte de film interactif qui utilise des FMV, des full motion video, donc des vidéos avec des acteurs, finalement, ou dans ce cas-ci, avec une vraie actrice. Ceci, il s'agit de Viva Seifert, je ne sais pas trop comment prononcer son nom, qui est l'ancienne claviériste du groupe Bikini Atoll, en fait. Et il s'agit de son...
Ah oui, Bikini Atoll.
Ouais.
Ouais, un groupe indie rock.
J'ai ça dans mon iPod.
C'est un iPod?
Non.
Non, en fait, ça, donc, qui est son premier rôle en tant qu'actrice dans ce jeu et qui fait un excellent travail. Le jeu, en fait, ça se retrouve à être une base de données qui contient toutes les vidéos de l'interview, puis un petit... quand on regarde l'interface de la présentation du jeu, c'est un bureau d'ordinateur. Donc, on a un logiciel ouvert sur un bureau d'ordinateur. On voit même le bureau en arrière dépasser avec la corbeille, puis il y a 2 README files qui expliquent de façon générale qu'est-ce que tu dois faire avec le jeu.
Desktopception.
Desktopception, il y a même la corbeille. Quand tu vas dans la corbeille, tu peux voir un fichier qui explique comme quoi il y a eu une corruption des données ou un incendie, je sais pas trop quoi, puis il y a des fichiers qui ont été perdus. Donc, on n'a pas la partie de l'entrevue où on voit la personne poser les questions. Fait qu'on a juste les réponses. Donc, ouais, ce qui met le ton au reste de... Je veux dire du jeu, à défaut d'avoir un meilleur terme pour l'exprimer. Donc, c'est... On finit par se promener à travers une interface, j'ai dit comme Google, en fait c'est une barre de recherche dans laquelle on peut entrer des mots-clés, qui nous permet de se promener à travers une base de données qui contient toutes les vidéos de ces interviews-là. Et les vidéos ne sont pas catégorisées, on doit chercher en utilisant les mots-clés, et les mots-clés ne sont pas fournis, donc on doit écouter les vidéos, comprendre, puis faire sortir des éléments, puis après ces éléments-là, mais aller voir s'il n'y a pas d'autres vidéos qui ne sont pas mentionnées ailleurs, pour approfondir l'histoire.
Ça m'excite beaucoup. Les jeux qui te demandent de vraiment assimiler de l'information puis de toi-même taper, pas des mots-clés qui sont enregistrés puis tu cliques dessus. J'aime beaucoup ça.
C'est un jeu que je joue sur mon iPhone parce qu'il joue super bien, c'est super minimaliste, donc j'avais pas besoin de clavier souris.
Il est disponible sur quelle plateforme?
Il est pas mal toutes les plateformes. Je sais qu'il y a Android, iOS, OS X et Windows.
OK.
Probablement difficile de jouer sur une console, étant donné qu'il faut écrire beaucoup. Donc, ça serait un peu...
PC et mobile.
PC et mobile. Okay. Non, c'est la seule particularité de l'interface qui va donner une difficulté au jeu, parce qu'on s'entend, sinon tu mets le mot-clé qui t'amène aux dernières vidéos, puis tu vas avoir le punch de l'histoire, mais c'est que les vidéos, on voit le nombre de vidéos que notre recherche retourne, mais on en voit seulement 5, on voit seulement les 5 premiers de la liste. Fait que souvent on va avoir 5 vidéos sur 17 affichées par manque de mémoire, c'est tout le temps quelque chose comme ça. Et la seule façon d'accéder aux autres vidéos plus loin, mettons si j'écrirais le mot-clé « husband », ben, mettons j'aurais 14 vidéos dans lesquelles elle parle de son husband, mais je pourrais pas voir les... 6 à 14, sans trouver les mots-clés supplémentaires qui vont me permettre d'avoir accès à ces vidéos-là.
Bref, l'entonnoir.
L'entonnoir.
Et on devrait faire jouer toutes nos tantes à ce jeu-là, juste pour qu'ils apprennent à faire des recherches sur Google.
Mais je me suis retrouvé, à chaque vidéo, il y a toutes les vidéos, les textes des vidéos sont indexés. Fait que peut-être qu'on met un mot qui lance une vidéo, les vidéos vont apparaître dans la liste, mais les 5 premiers vont apparaître. Mais on peut mettre des mots-clés ou des notes personnelles pour les regrouper ensemble pour faciliter la recherche plus tard. Et je me suis retrouvé à être comme ça sur mon téléphone, j'avais pas de papier, pas de crayon à portée de la main. Puis on tombe vraiment dans le rôle du détective. Là. Puis ça, c'est tout de suite, là, après, je dirais 10 minutes, là, je suis rendu à mon 5-6e vidéo, puis j'ai comme, oh mon Dieu, il faut que je prenne des notes, faut pas que j'oublie ça. Fait, je me retrouvais à me servir de cette note-là pour prendre vraiment tout en détail ce qui s'était dit dans les vidéos. Puis on a même une section où on peut mettre des favoris, où on peut garder des vidéos de côté si on veut pouvoir s'y référer plus tard. Et là, c'est le jeu de faire les liens. OK, là, elle a dit ça à telle date, mais là, elle a dit ça à l'autre date. Puis là, il y a sept dates où elle a été en entrevue, puis elle n'est pas habillée pareil, parce que on peut voir les différences. Mais son discours change, l'histoire change, et comme la vidéo est présentée, l'histoire en fait est présentée de façon totalement détachée, on saute du passé au futur, à travers son histoire, à travers son dialogue, à travers les dates des entrevues. Donc, il n'y a pas personne qui va vivre ce jeu de la même façon. Ça, je trouve ça super intéressant. Donc, selon les priorités, mettons que Dany, tu ferais en écoutant ça, tu commences ta recherche sur tel aspect, par exemple, de son interview, mais tu ne vas pas découvrir l'histoire de la même façon que moi, je vais la découvrir, puis ça va t'emmener ailleurs. Il y a peut-être des vidéos que tu vas voir que je ne verrai pas. Et le jeu, je ne sais pas comment ils font pour l'évaluer, mais à un certain point dans le jeu, lorsqu'on le joue, il y a comme une chat window qui apparaît de quelqu'un qui nous demande est-ce que tu as terminé? Comme, okay. Est-ce que t'as-tu compris c'est quoi l'histoire? Okay. Comme si quelqu'un kiffe ton temps et achève là, dans la librairie, on va fermer, puis t'as-tu fini? Puis si tu réponds oui, à ce moment-là, la personne qui t'écrit intervient et il va t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé suite aux entrevues pour te comme boucler l'histoire. Mais si t'as pas encore compris, tu dis non, puis tu peux continuer à naviguer à travers les vidéos. Donc, à un certain point, il se dit, avec tout ce que t'as vu, tu devrais avoir compris. Mm-hmm. Mais si t'as pas compris, tu peux y retourner puis continuer à chercher quand même. Donc, il n'y a pas de gameplay, il n'y a pas de boss fight, il n'y a pas de mécanique à part chercher les mots-clés. Puis, c'est difficile d'expliquer à quel point ce jeu-là est intéressant sans parler de l'histoire, des personnages, mais je veux pas en parler. Si j'en parle, l'intérêt d'aller jouer va diminuer beaucoup.
Puis tout ce qui fait que ce jeu est bon, c'est la force de son script.
Exactement. Pour un premier rôle d'acteur, Viva Seifert est excellente, c'est crédible la façon qu'elle rend. Surtout, sans vouloir spoiler l'histoire, mais le personnage qu'elle joue est un personnage qui est très, très, très complexe, puis elle rend très, très bien. Puis le jeu repose sur ses épaules, en fait.
Parce qu'elle a l'écran.
Il y a seulement elle, c'est bon. Ça. Puis là, on finit par être accroché à tous les mots, les hésitations, les expressions qu'elle va utiliser, pourquoi elle utilise tel adjectif au lieu de lui. Puis là, on se met à analyser tout ce qu'elle dit pour comprendre l'histoire, pour essayer de trouver c'est quoi les mots-clés pour aller voir c'est quoi les vidéos 6 à 14 que je peux pas voir pour approfondir le sujet, par exemple. Sans m'avancer plus là, dans l'histoire du jeu, c'est super intéressant. C'est intéressant au point où c'est un jeu que j'ai joué extrêmement tard en 2015. On s'entend, je l'ai ouvert là, un petit peu comme on était le 29 au soir ou le 30 au soir que j'ai commencé à jouer pour la première fois. Et je me suis retrouvé à jouer à ce jeu-là vraiment vers la fin de l'année, puis me rendre compte que finalement, c'est probablement une de mes expériences de gaming favorite en 2015. Pour aussi peu de gaming qu'il y a dans l'expérience, c'est totalement différent de quoi que ce soit d'autre qu'on pourrait avoir joué. Et comme vous savez, là, j'aime bien jouer à ces jeux-là là, un petit peu différents, avec des expériences différentes. Ça m'a accroché, j'ai tombé dans ça. Je me suis dit, je vais juste l'essayer, voir c'est quoi vite, puis je jouerai demain. 3 heures plus tard, j'ai fini par fermer mon téléphone, faire comme, ben, that's it, c'est fait, c'est réglé. C'est environ la durée de l'expérience. Là. Quelqu'un qui prend son temps ou qui est pas très perspicace va peut-être avoir un 3 heures et demie contenu.
Va prendre 3 heures, donc.
Un 3 heures. Ah. Mais il y a pour environ là, minimum, là, qui sont faits rapidement, là, un 2 heures et demie de contenu. Fait que c'est une expérience qui est courte, c'est pas très 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 long, mais si ça serait long, ça viendrait peut-être beaucoup trop complexe.
Tu peux pas maintenir ce genre d'intensité-là plus longtemps que ça, je pense. Là.
Mais c'est suffisant, ça reste comme un... C'est une super belle expérience, c'est super intéressant, c'est différent, ça rouvre la porte, j'espère, à s'inspirer un petit peu de ce qui a été fait dans ça, au niveau des jeux détectives qui pourraient venir à l'avenir. Mais c'est mon top de 2015, personnellement, et... C'est d'ailleurs, pour ceux qui pourraient qui lisent Polygon, c'est comme site web, Polygon a nommé Her Story comme étant le best game of the year 2015.
Je pense que vous ne serez pas les seuls. J'ai pas joué, mais ça a fait beaucoup de bruit.
Ouais.
Présentement, en vente sur Steam, 3,89.
Oh, wow!
Puis sur l'Apple Store, 5,80. Mais je fais une pénalité instantanée à GF. Pas de version Android.
Pas de version Android? Je pensais l'avoir vu sur Android.
Il y a une version Mac, mais probablement par Steam aussi. Là. Puis tu peux l'acheter directement sur le site aussi, là, probablement. Ouais. Mm-hmm. Voilà.
Ben, super expérience. Je vais me gâter, puis je vais lui donner un 4 pattes de divan.
Sur 4.
Plus une ouïa.
Plus une ouïa? Ça sert à quoi? C'est ben, pas comme peu. D'habitude, finalement, ça sert pas grand-chose. Donc, aujourd'hui, dans l'univers de Divan Quest, en date du 4 janvier... Je commence avec quelques naissances, une naissance quand même d'importance. Hein. En 1642, on dirait que je recule tout le temps un peu plus. Sir Isaac Newton.
J'ai jamais entendu parler.
Ben, en fait, c'est une bonne chose que cette personne-là soit née, hein, parce que sans lui, personne n'aurait inventé la gravité. Il y aurait des activités qui seraient vraiment difficiles à faire comme celle-là.
Who is it?
It's the plumber.
Plumber? I didn't call a plumber.
Je me suis gâté.
Bon, arrêter le pod parce que voilà. Je suis beaucoup trop excité.
Plus rien à dire.
Ouais, voilà.
Prochain segment.
Mais sans joke, mon petit côté scientifique veut souhaiter un joyeux anniversaire.
Mon petit côté scientifique, il drop à si tu as une intro de porn.
Mais souhaiter un joyeux anniversaire à Sir Isaac Newton quand même.
Tu as ton petit côté givré.
Mon petit côté givré. Ouais, ça, c'est l'autre côté.
Mon petit mini weed, toi. Là.
Puis avant qu'on me donne ça une pénalité, là, je sais qu'il l'a pas inventé la gravité. Là, t'sais. Mais je sais aussi, parlant de pénalité, là, plus pour vrai, que si on cherche un peu, souvent on retrouve que la date de sa naissance était le 25 décembre, mais c'était avant qu'il y ait la réforme du calendrier qui amène au calendrier de maintenant, là, donc qui nous amène au 4 janvier. Voilà.
Huh. Mm. Ça, c'est intéressant.
Quand même, hein? Je voulais vraiment être toi de part de pénalité. Je stresse là-dessus.
Depuis que je timestamp les punitions avec les extraits. Là.
T'es peur, hein? 1969, le rappeur Jay-Z est né. 4 janvier. C'est un rappeur. Ce rappeur-là a écrit une chanson qui s'appelle The Death of Autotune, qui dénonce l'abus d'utilisation d'autotune. Semblerait, puis c'est vrai là, que son inspiration vient partiellement d'avoir entendu de l'autotune dans une pub de Wendy's, la chaîne de burgers. Puis il a dit non, ça fait, là, c'est assez, c'est trop.
C'était un de ses 99 problèmes, c'est ça?
Ça devait être ça.
Oh, c'est bon.
Mais en tout cas, à cette déclaration-là, j'ai une réaction ici du rappeur T-Pain. Dans un petit chantant à l'épisode 6 pour un drop recyclé.
On est très très green ici à Divan Quest.
Je recycle mes propres gangs. Quoique ben du monde qui font ça, puis ils gagnent leur vie de même.
Oh!
Niveau gaming, sérieusement, là, pas grand chose. Ça paraît que les gens sont en vacances. Il y a presque aucun jeu comme connu qui est dans ces dates-là. J'en ai relevé un quand même. En 2005, d'habitude, je me rends même pas aussi tôt que ça, aussi proche de nous. Là. 2005, mais c'est pour toi, c'est Cave Story, la version Windows qui est sortie en 2005.
Merci.
Le 4 janvier, jeu dont tu as parlé un peu, Mathieu, là, le dernier podcast rapidement, là, mais mm-hmm. Un jeu dont...
C'est vrai, j'ai oublié d'en parler, mais j'ai un peu continué ma game de Cave Story. Tout petit peu.
Donc, on en reparlera probablement à un moment donné, j'imagine.
Sure.
Côté techno, 1958, c'est la journée où le Sputnik 1, le premier satellite là, qui était... envoyé là, par les Russes, après 92 jours dans l'espace, est retombé dans l'atmosphère et s'est désintégré. Semblerait là, que selon ce qui est officiellement rapporté par le gouvernement russe, un jeune Vladimir Poutine de 5 ans, à l'époque, aurait lancé une balle un peu fort et aurait accroché le satellite, avant de courir torse nu dans la toundra et d'abattre un grizzly en ne se servant que de ses coudes.
Mais ça, c'est que c'est contesté, par exemple. Ils ne sont pas certains, les historiques. Ils ne savent pas si c'est Poutine ou si c'est Kim Jong-il qui aurait fait cette
Ah, peut-être.
Ben, moi, j'aurais dit Lemmy Kilmister.
Moi, je pense qu'il se lançait la balle.
À travers le continent.
Oh, fuck, j'ai accroché un satellite. Tu sais, quand tu te cours en dedans, pas te faire chicaner, là, comme quand tu pètes la vitre de ton voisin. Là, dans le petit bonhomme.
Alors, oui.
2004, l'amarcissage. Bref, de la première moitié de Mars Rover, le Spirit. Donc, l'autre partie, c'était un entier, là, mais c'était les deux petites sondes robots. Opportunity était partie 21 jours plus tard. Aucune communication a été reçue depuis 2010 par le Spirit, là, qui est la première capsule qui est arrivée le 4 janvier, qui a parcouru au total 7,7 km. Opportunity, là, qui est arrivée 21 jours après, elle a donné de ses nouvelles encore récemment le 14 décembre dernier, aurait parcouru jusqu'à maintenant 42,65 km. Alors, comme certains disent, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ça pique même sur les sondes martiennes. Je termine avec quelque chose qui sort un peu de mes cordes habituelles, mais c'est une triste journée pour les fans des rock des années 70. Le 4 janvier 1980, c'était la dissolution du groupe légendaire Led Zeppelin. Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Blades of Steel.
Alors, 2015 étant derrière nous, j'espère que je ne vous l'apprends pas, je crois que c'est un bon moment pour revisiter les moments qui ont marqué l'actualité, dans les sujets d'intérêt à Divan Quest, bien sûr, surtout qu'on n'a pas été là pour toute l'année.
Quand même.
Mais bon, 1 million de sites de nouvelles, de chaînes YouTube et sûrement même de podcasts ont déjà fait ça, une rétrospective de 2015. Donc, j'ai décidé de donner la parole aux gens qui écrivent des commentaires sur YouTube.
Et il va y avoir beaucoup de...
ça risque pas d'en manquer. Certains diront que c'est une initiative extrêmement cynique et que de donner une tribune aux pires bassesses des internets et que c'est une façon paresseuse de créer du contenu pour un podcast. Évidemment.
C'est ça.
Bon, hein? Fait qu'évidemment, je me dois d'ouvrir avec une histoire qu'on a couverte toute l'année.
J'aime que 3 mois, c'est toute l'année. Là.
Oui.
Pour nous autres, oui.
Le départ de Hideo Kojima de Konami. J'ai décidé de commencer en douceur, avec une histoire qui n'a pas départagé les gens. Les médias ont présenté un portrait assez unidimensionnel de cette histoire. C'est assez évident pourquoi. La grosse méchante corporation contre l'artiste qui, dans l'imaginaire populaire, crée à partir du néant le contenu que les fans adorent. Donc, peu de commentaires ont vraiment été gratuits, mais crédit à l'imagination de certains. Sur Polygon, l'utilisateur El Rando de Wonder Horse...
Moi, tu les nommes même, rigueur. Hein?
Rigueur! El Rando de Wonder Horse nous offre... Breaking news, Hideo Kojima est captif dans le sous-sol du bureau de Konami, attaché à un radiateur. Maximus Prime répond, il a quand même le droit d'utiliser son téléphone pour Twitter. Konami ne sont pas donc complètement des monstres. Et El Rando rajoute, ce qu'on est chanceux, en nous mettant un lien vers un tweet de Hideo Kojima de 2013, dis-je, qui va comme suit, les œufs bénédictines, on dirait des boobies quand je shake l'assiette. LOL. Dire qu'on aurait pu être privé de tels bijoux d'intellectualisme.
Mais quand on y pense?
mais tu sais, props au gars qui a trouvé un tweet de 2013 qui était parfait pour appuyer le point. Là, c'est,
ou il garde depuis 2013. On a pas un moment où s'en servir.
Ouais, si j'avais un golf clap sur mon soundboard. Là,
Mais j'aime bien que ça ramène en perspective l'espèce de... Hideo Kojima, il a quand même un sens de l'humour très, très japonais. Il est excessivement impertinent la plupart du temps. Même dans ses jeux, les scènes humoristiques sont vraiment grasses et cheap. Fait que je pense que ça représente bien 2015, Konami, Kojima. Et voilà.
Ça représente bien 2015. Hein? Toute l'histoire de Kojima, puis de Konami plutôt.
C'est une joke de boobs.
C'est une joke de boobs de bénédiction.
Ensuite, on a eu, tristement, le décès de Satoru Iwata, le président de Nintendo. Bon, peu d'histoires cette année ont attiré autant de bons sentiments que celle-ci, mais on peut toujours compter sur YouTube pour divertir dans l'adversité.
Toujours faire jouer la toune de...
lors du Video Game Awards. Non, j'ai posé. Sur le vidéo Gut Reaction, Satoru Iwata Has Died de MMORPG.com, évidemment, c'est en tant que je traduis les commentaires. Hero Sun 90 écrit « J'espère que quelqu'un va acheter Pokémon pour le sortir sur PC.
Hein? »
Bravo, Chris Dépais. on a Erebus 2075 qui écrit... Ah oui, c'est parce que le président de Nintendo est mort, fait que Nintendo est en
toutes les droits sont disparus, là, c'est sûr.
T'sais, tu coupes la tête, puis là, tu sais, bon, OK. Erebus 2075 écrit... Fait que vous étiez d'accord avec la façon de faire de Nintendo depuis une dizaine d'années. Je dirais pas que c'est un coup sur la communauté du gaming, bien que ce soit triste qu'il soit décédé. Peut-être que maintenant Nintendo va être plus enclin à essayer des nouvelles choses. Et il continue pour 2-3 paragraphes. Sur la vidéo Nintendo President Satoru Iwata Has Died de Boogie2988, qu'on connaît sous le nom de Francis. Tu sais, le gros Francis là, qui pète ses coches sur YouTube.
Ouais.
Bon, OK. Qu'on connaît sous le nom. Non, jamais.
Non, anyway, non, mais c'est correct.
Boogie2988. Es-tu
parent avec Fuck the Bitches 547? Ou...
oui. On a Yolo Swaggins.
Hey boy!
Excellent username.
Yolo Swaggins.
Qui écrit « Ah, quelqu'un est mort, quelqu'un que tu connaissais à peine. Vite, t'es mieux d'uploader une vidéo pour faire plein de views. Pathétique. » C'est vrai qu'il est important de ne pas perdre de vues, ce qui est important dans la vie. Hein?
Mm-hmm.
Critiquer les gens qui veulent des views sur YouTube. Mais la plupart des vidéos, c'est quand même le même commentaire qui revient, c'est « Fuck cancer ».
Ah ben oui.
Voilà. On enchaîne avec de quoi de...
C'est le moment sentimental du podcast.
Ben, on parle de quelqu'un qui est mort, là. Chris. On enchaîne avec « Les machines Steam sont maintenant réalité ». Après plusieurs années de discussions et de changements, les premières machines Steam arrivent sur le marché. Mais ce qui a le plus attiré l'attention, mon attention, en fait, c'est la Steam Link, dont Danny et moi avons déjà parlé. Puis maintenant, ben, Jeff va joindre au club.
Oui.
Avoir la capacité de transférer des jeux de votre PC vers tout autre écran doté de HDMI, c'est le fun. Mm. Fait qu'en vous pensez, nos chers commentateurs YouTube?
Hey boy.
Ben, sur la review IGN de la Steam Link, le vidéo YouTube de cette review-là, on a Deadman Nasser qui commente. Vraiment, t'es pas capable d'amener ton ordinateur à côté de la TV, mais à quel point quelqu'un peut être paresseux? Mods Valentine commente, est-ce que je suis seul à utiliser des claviers sans fil, juste à connecter ton PC à ta TV, puis that's it? Et David Salinas commente, Wow, pas capable de déplacer son ordi dans la maison. On dirait que l'argent qu'il a mis sur le Steam Link devrait aller sur un abonnement au gym. On a une suggestion, par contre, intéressante de la part de...
J'ai comme ça en mots.
On commentera après. On a une suggestion ici de la part de Emir Amzao Goulari. Streamer les Xbox One sur le PC et le PC sur la Steam Link. Fait que, par rapport
c'est intéressant à tester, quand même.
Fait que par rapport à nos trois premiers commentaires, ben c'est sûr que c'est bien d'avoir de la perspective d'envie et de comprendre qu'un produit ne mérite pas d'exister s'il n'est pas utile à notre petite personne.
Ouais, c'est... Hein? C'est pas tout le monde qui habite dans un 1,5. Hop là!
Ensuite, on a la réalité virtuelle qui est sur toutes les lèvres. Plus, malgré, malheureusement, pas sur toutes les têtes parce qu'il n'y a pas grand-chose vraiment sorti encore.
Moi, si j'avais mon bout de drop de funk de l'autre tantôt, juste le petit bout de turn-turn-turn. Je l'aurais droppé.
Fait qu'on aurait eu la réalité virtuelle sur tous les coques.
Ouais, sur toutes les lèvres aussi.
Hein. Hashtag je suis coq. Keep the fight. Mais bref, 2015 va être l'année qui a mis la réalité virtuelle sur la carte, malgré l'absence de produits disponibles, à l'exception des solutions mobiles de Samsung. On a même eu droit à une couverture sur du Time.
Ben oui.
Voilà. Très belle couverture du Time.
Ah oui, je me rappelle. Voilà. D'un coup, t'en parles, ça me revient. J'avais comme un petit blocage qui me protégeait.
La plupart des gens n'ont pas eu la chance d'essayer le moindre produit de réalité virtuelle, mais encore une fois, pourquoi laisser ça empêcher de commenter? Hein? Un des deux produits de réalité virtuelle à venir est le SteamVR, développé par Valve, créateur de Portal, Half-Life, Team Fortress, qui utilise une technologie permettant de bouger librement dans tout l'espace qui vous est disponible et que ce soit transmis au jeu. Alright? Ça représente bien l'idée du produit.
Oui.
Donc, dans la vidéo SteamVR HTC Vive Prototype Hands-On de Tested, on a droit à ces bijoux. Justin Addy, question de bien focusser sur le sujet, nous dit « Fait que vous avez eu le temps de mettre Portal en réalité virtuelle, mais pas de faire Half-Life 3. »
Mais oui, hein. C'est le même temps de développement.
Et voilà. PC Invictus ouvre le bal sur le mouvement. « J'aimerais mieux une version de base sans la stupidité d'avoir à marcher.
» Fait que lui, c'en est un de ceux qui s'est acheté une Steam Link parce qu'il veut pas avoir à déplacer son ordi, c'est ça?
Peut-être pas, parce qu'il est dans un 1,5 anyway.
Ouais, c'est ça.
Marcher, c'est pas tellement...
Il n'y a pas de place pour marcher.
Et mais on a Fenrir Dies qui renchérit. « Ça vous tente pas de faire un jeu VR où j'ai pas à être debout ou marcher pour les fois où j'ai envie de jouer à un fucking jeu vidéo toute la journée? Vouloir jouer à Fallout, ça veut pas dire que je veux marcher des centaines de milles ou être debout ou bouger. »
Wow!
Je l'aime particulièrement, ça.
ça dépeint une image tellement...
c'est un peu triste.
Active du gamer moyen.
Évidemment.
En fait, c'est plutôt du commentateur YouTube.
Ouais, c'était ça.
Et on a Carl Andrews qui nous apporte brillamment, pas surpris, Valve déçoit encore.
Mais je reviens sur la couverture du Times que tu as parlé tantôt, parce que je pense qu'on en a pas parlé... Dans non. Les versions du podcast disponibles au public. Oui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez googler ça, là, googler Times puis VR ou quelque chose comme ça.
Oculus le Swift Time Magazine.
Il y a sur la couverture, là j'oublie le nom du gars, là, c'est.
Palmer Luckey.
Oui, ouais, c'est ça, qui est celui qui a inventé ou en tout cas qui travaille beaucoup sur le Oculus, là, dans une position vraiment tout croche là, avec les lunettes de réalité virtuelle sur la tête, là, c'est de toute beauté.
Sur un fond de plage en écran vert cheap. Là.
En jeans nu-pieds avec un polo turquoise.
Ouais, chose comme ça.
Bref, c'est extrêmement peu flatteur.
Ça vaut la peine.
C'est terrible. Ouais, puis on a une mention honorable à Green Day 90-90. Maintenant, qui nous dit « Maintenant, la question que tout le monde se pose, comment tu prononces Vive? » Et il se fait... On s'entend, c'est V-I-V-E, là. Et il se fait répondre rapidement « Ben, Revive sans le re.
»
No shit, Sherlock. Parce que, en tout cas, je suis content qu'on ait pu répondre à une question d'intérêt public comme ça.
C'est important dans la vie.
Et comme dernière nouvelle que j'ai décidé de porter à votre attention, qui n'est pas si massive que ça, mais qui est venue me toucher moi... toucher le mot un peu fort, là. Mais la rétrocompatibilité. Pas de funk, s'il vous plaît. Rétrocompatibilité Xbox 360 sur Xbox One. Coup de théâtre à E3 2015, la Xbox One va offrir de la rétrocompatibilité avec des titres de Xbox 360. Il ne s'agit que d'avoir l'autorisation des créateurs des jeux pour que Microsoft les rende disponibles sur la nouvelle console. Comment virer ça négativement? Voyons voir. Premièrement, dans les vidéos...
C'est vrai, pareil, je veux dire, qu'est-ce que tu veux? En tout cas, vas-y, là, tu vas me surprendre.
Ben, c'est ça, c'est comme, hey, yay, plus de choses pour les gamers. Bon, premièrement, dans la vidéo Xbox One Backward Compatibility, How Does It Work? De Eurogamer. On a Dark Destroyed qui ouvre la machine avec la Wii U l'a fait en premier, just saying. Bon. Moi, j'aurais dit, bon, le Game Boy l'a fait en premier, ou le PC. Mais bon, hein, comment ça empêche
de chialer? Non, le PC, tu peux pas jouer à des jeux de...
Des vieux jeux,
ben Windows 98 sur Windows XP.
Ou de d'autres plateformes.
Non, c'est impossible.
Voilà. On a Potato Salad, oui, oh, avec un E.
Potato.
Commande sur la sélection des jeux compatibles lors du E3. Mon fucking toaster peut jouer à ces jeux indie-là. Faut pas oublier que la liste initiale présentait des titres comme Borderlands, Mass Effect et Gears of War. Ouais.
Mais c'est vrai que la Xbox 360 chauffait un peu, puis peut-être qu'il fait ses toasts sur sa Xbox, c'est peut-être ce qu'il veut dire.
Il a peut-être juste confondu son toaster. sur la vidéo de GameSpot présentant à la conférence de E3 2015 de Microsoft, on a Alex Nicolas qui va de, je dirais plus, bullshit compatibilité. La conférence E3 était basée là-dessus. God damn it, Xbox. J'aimais bien bullshit compatibilité. Je fais comme pas le relever. Genre que...
Mais à quoi le monde s'attend?
Non, mais lui, clairement, il s'attend à devenir scénariste ou scripteur pour des humoristes. Voilà. Parce qu'avec du contenu comme ça, écoute, Hollywood, here I come, là.
Mais après, c'est un sport, là. Tu dédies ta vie à faire ça, aller sur YouTube et dire la shit.
Ben lui, il va dédier sa vie parce qu'au moins, il a comme un vrai nom. Tu sais, c'est pas comme Dark Destroyer, je sais pas quoi.
Potato Salad.
C'est pas Dark Destroyer, c'est Dark Destroyed.
Ouais, ben c'est ça. Destroyed.
Moi, j'avais Green Day 90-90. Ça veut dire que Green Day 90 était déjà pris.
Et on a Dion Ocampo qui offre une pause de l'amertume. Il dit, quand il a dit. Dans la conférence, quand il a dit que le support était natif, j'ai entendu un gars avoir un orgasme. Et Mike Gaming se présente en tant qu'ambassadeur du petit peuple. Aussi intéressant que ce soit, j'arrive pas à imaginer quelqu'un qui va utiliser ça.
Hey boy.
Parce que tu sais, le gaming, c'est de la bouffe. Une fois que tu l'as mangé, tu retouches plus jamais.
Tu retouches plus jamais, non.
Voilà. Voilà.
Ouais. Et à tous ces commentateurs, ou en tout cas majorité, là, parce qu'il y en a quand même des juste qui sont comiques, là, j'en donne un très beau.
Réflexion. Sur l'année.
Oh!
Et ben,
coup de théâtre!
Ben oui, et voilà. Bienvenue dans la première réflexion de la semaine en 2016. Fait que comme beaucoup de monde, j'en ai encore pour une couple de semaines avant de plus faire d'erreur.
Ben imagine, tu n'écris pas à date à chaque jour. Moi, j'écris à chaque jour, je me trompe pour deux semaines.
Non, mais c'est pas facile. Il a scripté. Il a pris à peine d'écrire qu'il se trompait. C'est pas facile.
Imagine. Il pourrait.
C'est ça qui arrive quand tu scriptes tes gangs.
Il va rivaliser avec le gars là, de tantôt là, qui parle de bullshit compatibility.
Alex Nicolas, shout out.
Ça a l'air à rien, mais on vient de faire une minute de contenu là-dessus.
Oh!
Vite, les codes d'écoute.
Mais cette semaine, on va faire un petit peu moins dans l'absurde puis un petit peu plus dans l'éditorial.
J'aime bien qu'il vient de dire ça après ce qu'on vient de dire. Il y a une minute de connerie.
Ce que j'ai écrit, c'est moins absurde. Libre à vous de participer.
Moi, je peux pas faire autre chose que de l'absurde.
Contribuer à l'absurde.
Ouais. Mais on s'en doute. Avec le nouvel an, arrivent les nouvelles résolutions, évidemment. Donc, les gyms se remplissent jusqu'au 15 janvier. Les ventes de cigarettes diminuent pendant quelques jours. Et les couples qui se sont demandés en mariage de Noël, probablement suite à l'écoute de notre épisode du dernier Divan Quest, commencent à calculer leur budget pour le grand jour. Puis certains ont probablement déjà des remords.
Mon Dieu, qui est ta mère, cet enfant-là!
Je ne rappelle pas Dany, dans la dernière réflexion, on parlait de mariage.
Oui, okay. La lune. Écoute, la dernière réflexion, elle est tellement partout que j'ai beau l'avoir réécoutée, là, j'ai manqué des bouts, je pense.
On t'en voudrait pas de pas vraiment nous écouter.
Donc, évidemment, quand on pense à 2016 puis à ce qui s'en vient, c'est facile de s'emballer. Niveau gaming, on devrait avoir des Uncharted, Horizon, Deus Ex, Mass Effect, No Man's Skies, The Division. Niveau techno, 2016, ça devrait être l'année de la réalité virtuelle, en fait. Woo! Avec tout ce qui a été annoncé en 2015, qui, on devrait, on l'espère, finir par peut-être éventuellement arriver en 2016. Avec les lancements de l'Oculus Rift, le SteamVR, le PlayStation VR, on a juste à consulter les spéculations sur les annonces qui sont prévues au CES pour deviner que 2016, ça s'annonce une année qui est quand même une belle année pleine d'innovation devant nous.
Je pense qu'on va parler de CES dans le prochain épisode. Hein?
Oui, bien sûr. Une chose est certaine, c'est que c'est tous des sujets qu'on risque de parler dans les prochains épisodes de Divan Quest au cours des prochains mois. Mais avant de se lancer dans les futiles résolutions de la nouvelle année...
On n'est pas cancellé avant, mais on n'a pas de work pour nous canceller. On a cette chance.
Et effectivement.
Ben, mais... Nous, on a cette chance. Nos auditeurs, un peu moins.
Ah, et voilà.
Mais avant de se lancer dans les futures résolutions de la nouvelle année ou dans les conjectures fanatiques, je crois qu'il est important de savoir d'où on vient pour partir du bon pied dans la nouvelle année. Donc, j'ai pris quelques instants pour cogiter sur les grands thèmes de l'année passée pour voir si le passé ne serait pas garant de notre avenir. Donc, en revisitant les grandes sorties de jeux 2015, on constate qu'il y a certains types de jeux qui ont profité d'une belle tribune avec des titres forts qui ont permis d'ouvrir la porte à des nouvelles expériences de gaming en 2015. Je dirais que le premier type d'expérience qui me vient à l'esprit, sans surprise, c'est les jeux d'aventure narrative à la première personne, ou ce que certains appellent les walking simulators. Qu'on pense aux creepy aventures d'horreur que sont les The Park ou les Soma, ou encore à Everybody's Gone to the Rapture, dont j'ai parlé sur le podcast dans un épisode précédent. Je pense que c'est des jeux qui nous ont appris que c'était possible de mettre le ton et la narrative au premier plan en mettant de côté les ennemis et les niveaux de difficulté. Donc, c'est une vision différente, c'est une expérience différente. Puis j'ai trouvé ça très intéressant de retrouver côte à côte dans les jeux marquants de 2015, de un petit peu partout sur les top 10, les top 20, top 15, peu importe, de tous les différents sites web, de trouver côte à côte Everybody's Gone to the Rapture et Bloodborne, qui sont deux jeux qui sont littéralement deux expériences totalement opposées. Fait que je trouve que c'est super intéressant au niveau gaming d'avoir tout cet éventail-là de possibilités à porter de la main. Pour rester dans les jeux, dans le domaine des jeux d'aventure, en fait, les jeux de type Choose Your Own Adventure ont aussi connu beaucoup, beaucoup de succès en 2015 avec des titres comme Life is Strange, Until Dawn, puis toute la panoplie de jeux qui ont été lancés par Telltale, donc Tales from the Borderlands, Game of Thrones, puis Minecraft Story Mode.
Ouais.
C'est un petit peu la glorification des Quick Time Events, des décisions déchirantes et des dilemmes impossibles. Hashtag 19 octobre 2015. C'est les élections.
Ouais, c'est ça.
Pourtant, je devrais m'en rappeler.
C'est ça. Ce n'est pas seulement la date où tu as précommandé les billets pour aller voir Star Wars.
Ouais, moi, c'est juste ça que je me rappelais.
Ouais, c'est, ça, ça.
C'est la date où j'ai commencé mon segment Trudeau Watch. Là. Je devrais m'en rappeler.
Donc, malheureusement, par exemple, 2015, ça n'a pas été seulement une année de diversité dans le gaming. C'est aussi une année qui a été marquée par plusieurs éléments négatifs. On en parle régulièrement dans le podcast. On a même un court segment qui est dédié. On en a même parlé tantôt. Donc, on doit inévitablement parler de la chute de Konami en 2015, en fait. On en rit beaucoup. On n'a jamais réellement pris le temps, par exemple, de s'arrêter pour comprendre puis expliquer peut-être ce qui s'était réellement passé avec les compagnies japonaises. C'est une chose qui est importante qu'on doit comprendre de Konami, c'est qu'il s'agit d'une entreprise qui est familiale, qui est fondée en 1969 par M. Kagemasa Kozuki. Donc, le contexte de l'entreprise familiale au Japon avec le contexte culturel japonais dans lequel Konami évolue, c'est très, très différent de ce qu'on est habitué, nous, en Amérique, ici. Donc, on peut probablement, si on regarde ça de façon globale, on peut probablement ramener l'ensemble des décisions qui ont été prises par l'entreprise en 2015 à deux éléments majeurs, soit la popularité,
oui.
Pas facile ce mot-là quand même.
Plus que deux syllabes.
Plus que deux syllabes. La popularité grandissante des plateformes de jeux mobiles au Japon et Hideo Kojima, en fait. À la mi-année, la direction de l'entreprise, elle a changé. Ça a passé aux mains de Takuya Kozuki, qui est le fils du fondateur de Konami.
Je pensais que tu nommais quelqu'un quand t'as dit « à la mi-année ». Genre, c'est le nom du gestionnaire.
À la mi-année Kozuki.
Ça passe pas, ça.
Donc, les rênes de l'entreprise ont passé aux mains du fils du fondateur, donc Takuya Kozuki. Et avec un changement de direction, ça vient inévitablement un changement dans les valeurs et les stratégies de la business. Et l'entreprise a entamé un virage vers le développement d'applications mobiles, malgré que Konami ait fait une sortie dans les médias vers la fin de l'année pour rassurer les fans qui ne seront pas oubliés. Donc les franchises qu'on a déjà devraient quand même être mises de l'avant. Selon certains, c'est peut-être trop peu trop tard, mais c'est à suivre en 2016. L'autre grand facteur, c'est le géant, en fait, Hideo Kojima. On peut pas nier le talent de l'homme, ni ses réussites, ni ses succès. Mais pour Konami, Hideo Kojima, c'était probablement devenu une sorte de problème, en fait, pour l'entreprise. Le studio de Kojima était très gros pour un studio interne.
Il coûtait très cher d'œufs bénédictines.
Il coûtait très cher d'œufs bénédictines. Et embauchait de nombreux employés, donc beaucoup, beaucoup d'œufs bénédictines. Soit deux par employé
pour avoir la peur.
Pour avoir la peur. Donc, les budgets qui étaient demandés par le studio pour le développement des titres comme Silent Hill ou Metal Gear Solid, c'est devenu énorme. Et le personnage d'Hideo Kojima était rendu lui-même plus grand que son employeur, puis canalisait la majorité des efforts de PR à travers lui-même en tant que directeur de ce studio de Kojima Productions. Vraiment. Donc, quand on regarde ça comme ça, sous ce point de vue-là, les décisions qui sont prises par Konami en 2015, ça peut nous sembler insensé, quand on le regarde de notre point de vue américain. Mais si on se replace dans le contexte d'une entreprise japonaise, dont la majorité des franchises ne se vendent plus autant que dans le passé, et que la nouvelle direction tente de remettre sur les rails, les choix faits par Konami deviennent parfaitement compréhensibles au niveau business. Étant donné l'impact que Konami a eu sur le paysage du gaming depuis notre enfance, depuis de nombreuses années, sur de nombreuses plateformes avec des titres qu'on a tous joué, qu'on parle de Contra, qu'on parle de Metal Gear, qu'on parle de Silent Hill. Mais je vais classer la restructuration de l'entreprise et le départ d'Hideo Kojima comme un des éléments marquants de 2015, selon moi.
Tout à fait valide.
Écoute, ça fait plusieurs épisodes qu'on en fait avec ça.
Ils nous font vivre, finalement.
Ils nous font vivre.
Tu veux te dire, je sais pas ce que...
Si seulement.
Qu'est-ce que tu voulais nous annoncer,
John? Le dernier thème, malheureusement marquant 2015, selon moi, c'est la mise en marché de jeux incomplets dont une grande partie du contenu a été caché derrière des contenus téléchargeables payants. Donc, les fameux DLC. C'est la principale raison pour laquelle je n'ai pas acheté Star Wars Battlefront et pour laquelle j'ai cessé de jouer à Destiny en 2015. Je ne crois pas que les DLC soient une mauvaise chose en soi. S'ils sont utilisés pour offrir du nouveau contenu à un jeu qui est sorti quelques mois plus tôt ou donner aux fans d'un jeu des nouveaux challenges, les DLC, ça peut être un outil super intéressant. Malheureusement, 2015 a officialisé la pratique de vendre un demi-jeu plein prix puis de multiplier la valeur d'achat du même jeu deux ou trois fois en utilisant les DLC comme incitatif. Donc, après les éditions spéciales, les pre-order bonus, les DLC, c'est devenu simplement la nouvelle vache à lait de l'industrie du jeu vidéo. Ils servent principalement, selon moi, juste à diviser le bassin de joueurs des différents jeux, en fait. Puis avec le temps, les futurs DLC qui vont sortir font juste élargir le groupe de la player base. Donc, on a des types de joueurs qui vont jouer au jeu original, ceux qui vont avoir les versions téléchargées. Et l'expérience devient de plus en plus différente entre les deux et diluée. Donc, c'est pas un problème qui a une solution simple. Je pense que c'est toujours possible de voter avec son portefeuille, un petit peu comme je l'ai fait. Mais en 2015, s'abstenir d'acheter un jeu par contestation d'un modèle d'affaires, ça signifie aussi passer à côté du retour d'une franchise qu'on espérait depuis longtemps, comme Battlefront. Donc, 2015, ça a été une année assez intéressante, remplie de surprises, puis 2016 s'annonce tout aussi mouvementé. Donc, je me lance donc dans la nouvelle année avec comme résolution de ne pas perdre 30 livres. je l'espère. C'est bon. Si je veux pouvoir venir encore aux enregistrements. Et de continuer à vous présenter, chers compagnons de divan, des expériences de jeu qui sortent des sentiers battus, finalement. Je vais conclure en portant un toast à tous les geeks qui nous écoutent. Puis, bonne année.
Bonne année.
Bonne année.
You, 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 you.
Hey! Donc, pour ceux qui n'auraient aucune idée, j'en ai dit tantôt, en fait, là, j'allais comme passer à côté de l'idée. Hein. Je parle de Never Alone. Puis pour ceux qui n'auraient aucune idée de ce que c'est ce jeu-là, qui n'auraient vu absolument rien passer, je fais juste comme un petit 30 secondes de l'intro. Ça va un peu partir la chose. Et c'est là que tu te dis, j'ai pas mis les sous-titres à off. C'est vraiment là l'intro du jeu, tu pars la partie, puis c'est ça. En fait, Never Alone, puis j'expliquerai le pourquoi du monsieur tantôt. Never Alone, qui est aussi appelé Kisima Ingituna. Qui veut dire la même chose finalement. C'est un jeu qui a été développé par Upper One Games, qui est une compagnie qui a été fondée en 2012, par une compagnie qui appartient au Cook Inlet Tribal Council, qui est un organisme sans but lucratif, qui travaille avec les Premières Nations en Alaska. Donc le monsieur qu'on entendait parlait dans le dialecte là, de cette communauté autochtone-là en Alaska. Je reviens sur la compagnie, là. Ce serait la première compagnie commerciale de jeux vidéo qui appartient à des autochtones aux États-Unis. Qui appartient totalement aux autochtones, commercial donc pour faire de l'argent. Puis le jeu comme tel a été développé justement avec cette compagnie-là en collaboration. Puis il y a dans le développement de ce jeu-là une quarantaine de personnes, là, des elders, des anciens, là, je ne sais pas trop comment le traduire, des compteurs, des membres de la communauté Inupiat, qui sont les Inuits du nord de l'Alaska. Donc c'est un jeu qui a été vraiment développé avec cette communauté-là d'Autochtones, mais vraiment là, en grosse collaboration, pour parler avec les anciens qui connaissent les légendes qui sont transmises là, oralement puis tout ça. Donc, c'est vraiment un peu ça. Fait que ce qu'on entendait tantôt, c'est la narration qui commence où on raconte l'histoire dans le jeu. Donc, le jeu comme tel, justement, raconte l'histoire d'une petite fille, Nuna, qui est une petite fille Inou, justement, qui se retrouve un peu par la force des choses, forcée à devoir trouver c'est quoi la source d'un blizzard qui empêche là, son visage de partir à la chasse, son village de chasser. Donc, Nuna se retrouve là, prise dans le blizzard, se trouve séparée de son village, puis doit retrouver un peu là, la trace de son village pour commencer. Puis ensuite, après ça, c'est de voir qu'est-ce qui fait que ce blizzard-là qui n'arrête pas, qui empêche les gens d'aller chasser et de se nourrir, on comprendra. Donc, l'histoire de ce jeu-là est basée vraiment sur des vraies légendes de cette communauté-là. Tu sais, c'est pas juste on invente une histoire, c'est basé sur un paquet de légendes là, qui ont un peu amalgamé, puis bon, mélangé ensemble pour que ça suive un petit peu. Mais c'est un paquet de légendes qui sont vraies. Puis à mon avis, là, c'est vraiment peut-être ce bout-là qui rend le jeu vraiment intéressant. Avoir des vraies légendes, des légendes à suivre, l'histoire de ces légendes-là qui se développent aussi là, dans les différents chapitres du jeu. Puis tu sais, quelqu'un qui, comme moi, aime beaucoup l'histoire dans les jeux, ça rend ça comme vraiment intéressant. Il y a un autre petit élément aussi qui se rajoute aux légendes là, qui un peu tourne autour de ça. Je vais y revenir tantôt.
Une vraie légende, on n'appelle pas ça juste l'histoire.
Mais dans le sens où c'est une légende qui existe depuis longtemps. Hein, pas nécessairement qu'elle est vraie.
Une véritable légende.
Ouais. Une légende qui existe dans le vrai folklore.
C'est bon.
Mon Dieu, qui est impertinent.
Rigueur.
Il me coupe pour ça. au niveau du jeu, au niveau du gameplay, c'est, on pourrait appeler ça un genre de co-op puzzle platformer. Si on mixe tout ça ensemble. J'explique là, chacun des aspects. Au début du jeu, Nuna rencontre un tout, c'est très très rapide là, rencontre un petit renard arctique, un petit renard blanc, qui va l'accompagner tout le long du jeu. Quand on joue tout seul, dans le fond, on échange le contrôle entre les deux personnages, entre Nuna et le renard arctique. Moi, j'ai joué avec ma blonde. Je vous disais tantôt, j'avais un peu trouvé ce jeu-là en cherchant sur Steam des jeux coop pour tester un peu la machine puis profiter du congé. Donc, quand on joue à deux, ben, y a une personne qui contrôle Nuna, une personne qui contrôle le renard. Donc, quand on s'est mis à jouer, ben, ma blonde s'est retrouvée à jouer Nuna là, pour une question de connexion de manette sur le Steam Link. Là, on faisait un peu des tests en même temps. Moi, je jouais le renard, puis on a décidé de continuer comme ça. Puis comme je disais, là, c'est vraiment le co-op est là, mais le côté puzzle platformer, ben, on a l'aspect platformer là, qui est comme assez commun. Là, on se promène, on saute un peu partout, on doit se rendre à des endroits, on évite des obstacles. Il y a aussi des ennemis à éviter. Là, j'y reviens tantôt en parlant un peu des ennemis. Mais il y a le côté aussi qu'il y a certains endroits où est-ce que c'est bien beau, là, tu ne mets pas comme à Mario Bros, où tu fais juste sauter, tu finis par te rendre. Il faut que tu réfléchisses un peu sur le comment tu vas faire pour réussir à te rendre aux autres plateformes ou à te rendre un peu plus loin. C'est là que les éléments de puzzle qui rentrent en ligne de compte, qui sont reliés aux différentes mécaniques là, du jeu, que les différents personnages, dans le fond, peuvent faire. Là. En exemple, ben, le petit renard, il peut grimper sur les parois de glace qui sont plus hautes, t'sais, qui sont trop hautes pour pouvoir sauter d'un coup. Lui, il peut sauter, s'agripper, spinner avec ses petites griffes, réussir à monter. Puis d'en haut, il va comme donner un coup sur une corde qui serait accrochée là. Hein. Ben, t'sais, c'est ce côté d'un jeu vidéo. Il y a une corde qui prend une bonne place pour que Nuna puisse ensuite grimper la paroi. Nuna, elle, rapidement, va trouver des bolas. Pour ceux qui ne sont pas des historiens, les bolas, c'est les deux boules qui sont rattachées par une longue corde que tu peux lancer là, sur les animaux pour... genre, le fond, en tortiller autour d'eux autres. Là. Donc, elle ramasse des bolas magiques qu'elle peut lancer un peu partout pour briser de la glace qui ouvre des passages, puis tout ça. Donc, ça donne cet aspect-là. Elle peut aussi pousser des caisses qui seraient trop lourdes pour le petit renard. Donc, c'est un peu en jouant entre ces mécaniques-là là, qu'on réussit à résoudre les puzzles. Il y a un paquet d'autres mécaniques, là, je ne veux pas en parler trop, parce qu'il y a quand même il y a des mécaniques qui brûleraient des punchs à notre histoire, qui nous donneraient des divulgageurs, comme on l'a appris en fait.
Qui nous divulgacherait,
ou c'est vrai, on peut l'accorder. Donc, qui nous divulgacherait des punchs, hein, parce que fuck.
Fuck tout. Tu prends la peine de traduire divulgacher, mais tu y vas avec punch, ouais, voilà. Fuck tout.
Donc, qui nous brûlerait des punchs qui valent la peine d'être vus, là, parce qu'il y a des mécaniques qui changent à un moment donné dans le jeu, puis je veux pas le dire pour ceux qui n'auraient pas joué. Il y a quelque chose d'intéressant à le vivre la première fois. C'est une belle petite surprise. Donc, ça rajoute à l'histoire, mais il y a beaucoup d'autres mécaniques qui apparaissent. Niveau plateforme, là, comme je disais tantôt, là, ça reste un platformer, mais il y a quand même un petit élément particulier, c'est que dans le jeu, il y a des esprits à des endroits qui vont venir t'aider. Des esprits que tu peux marcher sur leur tête, là, puis ils peuvent se déplacer. Puis ça amène un petit élément que c'est ça reste que c'est des planchers que tu marches dessus, là, si on parle au niveau ben ben basique. Mais ça a un petit côté très le fun qui rajoute là, au visuel, puis tout à l'espèce de thématique là, légende amérindienne, puis tout ça qui vient aider. Puis on se rend compte rapidement que les esprits ont un peu de l'interaction aussi avec le renard là, qui peuvent les suivre pour que tu y amènes une autre place. Bref, il y a des petits trucs comme ça qui jouent ensemble. Moi, c'est un côté que j'ai beaucoup aimé du jeu. Là. Le côté puzzle coop où est-ce qu'on était assis sur le divan puis à deux, on réfléchissait à comment est-ce qu'on allait utiliser chacune de nos mécaniques pour réussir à s'aider à résoudre le puzzle. T'sais. Ah, ben va donc là. OK, oui, regarde, il y a l'esprit qui est là. Je vais te le descendre. Toi, piche tes beaux là-dessus pour qu'il apparaisse une plateforme. Tu vas pouvoir sauter. T'sais, on pouvait parler, s'aider à deux. Ce qui se rendait ça vraiment intéressant puis coop. Je sais pas, quand tu joues tout seul, comment ça se... traduit tout ça, où est-ce qu'il faut que tu contrôles un personnage pour faire ramener la plateforme, puis rapidement que tu changes à l'autre pour tirer tes bolas. Je sais pas comment ça. Je l'ai pas essayé, puis j'ai pas vraiment le goût non plus de l'essayer parce que je pense que l'expérience était vraiment le fun en coop. Puis j'aurais peur qu'elle le soit moins en jouant seul. Puis j'en parlerai un peu tantôt là, parce que c'est beaucoup des trucs qui ressortaient dans ce jeu-là au niveau des côtés négatifs. Tantôt, je disais qu'il y a des ennemis, comme deux ennemis particulièrement dans le jeu qui sont là un peu de temps en temps. Il y a un ours polaire qu'on voit dès le début du jeu. En fait, le début du jeu commence, puis si tu te fais pourchasser par l'ours polaire avec Nuna, justement, puis c'est comme ça que tu rencontres le petit renard là, qui va t'aider à t'échapper. Généralement, les ennemis, puis il y a un autre personnage là, qui est un méchant monsieur. Là. Il n'y a pas vraiment de nom. En tout cas, je ne l'ai pas enregistré dans ma tête. Qui te pourchasse aussi parce que lui, il va avoir tes bolas magiques. Le monsieur, il court après la petite fille pour avoir ses boules magiques. Donc, tu as ces deux ennemis-là, mais majoritairement, tu vas te sauver d'eux. Là. Tu te sauves d'eux autres pour pas qu'ils t'attrapent. Tu finis par les confronter avec des gros guillemets. Là. Tu ne vas pas comme te battre avec eux autres en leur pitchant les affaires, mais tu arrives, mettons, dans un petit tableau qui devient fixe. Là. Tu ne peux plus te déplacer. Mais genre, le tableau, il scroll plus. Là. Tu restes là fixe avec des plateformes. Puis là, il y a encore un peu un élément de puzzle pour réussir à trouver comment faire pour te débarrasser de ces ennemis-là. Fait que tu finis par les défaire, les battre, si on veut, mais sans leur donner des coups d'épée. Là. C'est vraiment, encore une fois, en utilisant le côté puzzle puis plateforme. Ce qui est quand même intéressant puis bien fait. Puis ça prend une couple de coups, des fois, pour comprendre le comment qu'on va faire pour le battre. Justement, parlant de ça, la mort, parce que ça arrive dans une plateforme, tu manques ton coup, tu tombes dans l'eau, puis là, ben, c'est l'eau glacée de l'Alaska, là, tu n'en sors pas vivant. Sauf un bout du jeu où t'es dans l'eau, puis c'est normal. Bref. Tu sais, des fois, il y a des petits bouts que t'es mieux de pas trop poser de questions pour apprécier le jeu. Là. Mais la mort est quand même fréquente. Tu sais, si tu manques ta plateforme, tu te fais rattraper par le bout, puis les bouts, est-ce que tu te sauves des ennemis? Ben, si tu manques un peu ton saut, tu peux pas faire, ben, je vais recommencer parce que l'ennemi est rendu à toi, puis il t'attrape. La mort, elle est quand même fréquente, mais elle est pas très punitive. Parce que quand tu meurs, tu recommences presque instantanément, un petit peu plus en avant, en arrière. Là. En tout cas, tu recommences pas loin. Oui. Des fois, c'est un petit peu plus loin quand il y a une grosse série de plateformes ou quelque chose comme ça, puis là, c'est un peu plus loin à recommencer, mais en général, ça se recommence rapidement. La seule affaire, c'est ce qui fait que t'as pas le goût de mourir dans ce jeu-là, c'est mettons que le renard meurt, la petite fille m'a pleuré. C'est quand même très triste. Puis si la petite fille meurt, le renard te lâche un petit cri là, de genre de... qui est hyper triste. Que tu veux pas que tes personnages meurent parce que l'autre personnage a vraiment de la peine. Donc bref, tu veux pas mourir trop souvent parce que c'est pas le fun. Mais sinon, là, au niveau du jeu, là, la mort est pas très très punitive. Tu recommences rapidement puis tu recontinues où est-ce que t'étais rendu. Au niveau de l'ambiance, puis je pense que c'est ce côté-là moi qui c'est un des éléments qui a fait qu'on a voulu l'essayer, qu'on a regardé le preview. Visuellement, c'est un jeu qui est très beau. C'est un peu cartoony. Tu sais, les dessins sont pas faits pour être hyper réalistes. Mais avec un petit twist qui fait que c'est vraiment très beau. Puis c'est un jeu qui est récent, là, qui n'est pas sur les vieilles plateformes. Là. C'est genre PS4, Xbox One, puis bon, moi, je l'ai joué sur l'ordi, sur Steam. C'est très smooth, très beau, très...
Puis ça, justement, le style visuel rappelle beaucoup les Inukshuk, puis tout l'art amérindien.
Mais en plus de ça, il y a des cutscenes justement qui sont faits en art tribal amérindien.
Oh, wow.
Qui sont vraiment, là, t'sais, tu pourrais imaginer que c'est une peinture sur une peau de daim, là. Puis là, qu'elle se met à bouger pour le... Tu vois pas la peau, mais c'est un peu ce principe-là où est-ce que c'est vraiment des coups de pinceau, des lignes. Tu remarques un espèce de côté très, très tribal, si on veut, à de l'art qui raconte un peu l'histoire là, dans les cutscenes. Au niveau de la musique, ben, vous avez entendu un petit bout de musique au niveau de l'intro tantôt. C'est super smooth, super relax. Moi, j'ai été très content d'avoir la soundtrack. Là. J'ai pris... parce qu'avec le rabais de Steam, t'avais le jeu à 4,50, à 3,50, puis t'avais le jeu avec le DLC puis le soundtrack à 4 pièces. Tu fais comme, beau 50 sous, tu sais, je vais le prendre. La soundtrack est super le fun, c'est relax, c'est smooth. La musique est pas envahissante, mais tu l'entends un peu, qu'elle est juste là pour amener avec le jeu. Mais la musique n'est pas très, très présente parce qu'il y a des sons qui sont là, qui sont importants, il y a des bruits de vent, puis le vent est un élément utilisé dans les plateformes. Des fois, les plateformes sont trop loin, il faut que tu sautes avec le vent pour t'y rendre ou que tu sautes pas quand que le vent te pousse. Mm-hmm. Où il y a des vents de blizzard qui sont tellement forts qu'il faut que tu te baisses pour pas qu'ils t'apportent, qu'ils te poussent par en arrière puis que tu te ramasses dans l'eau. Donc, t'es mieux de l'entendre que le coup de vent s'en vient que d'avoir la grosse musique, mais elle est là quand même, puis ça fait une ambiance qui est vraiment intéressante. Au niveau de la narration, on a entendu un petit bout tantôt, mais tout le long du jeu, la narration est comme ça. La narration est en Inupiaq tout le long. Puis là, ben, tu choisis ta langue de tes sous-titres. Nous, on a dit, ben, tiens, tant qu'à avoir des sous-titres, mettons-les en français. La traduction en français, elle est vraiment très bonne. Tu vois que c'est pas une traduction qui a été faite par Google Translate de la traduction anglaise qu'il avait faite au départ. J'imagine qu'ils ont demandé, parce que si tu as 40 personnes de la communauté qui sont dans le coin, il y en a peut-être un quelque part qui comprend le français. Ils ont peut-être fait traduire par des gens de la communauté. Bref, la traduction, elle est tout cas, si c'est pas ça qu'ils ont fait, ils ont fait une méchante belle job parce que c'est très smooth, tu peux suivre facilement, t'as pas l'impression que ça a été double traduit. Fait que j'ai pas regardé en allemand, là, parce que vous avez vu tout à l'heure ma prononciation, elle est, en allemand est loin d'être à jour. Dans le sens qui est inexistant.
Voilà.
Mais en français, la traduction est géniale. J'ai pas vu en anglais, mais en français, c'était vraiment bien. Donc, c'est le fun aussi pour l'ambiance du jeu, parce que tout le long, t'as le narrateur qui te parle, puis t'entends les mots que tu comprends pas, puis tu vois la traduction, mais tu sais, ça te fait garder dans l'ambiance là, du jeu qui est vraiment intéressant. Donc, une bonne ambiance dans le jeu là, qui est vraiment bien. Je fais un petit... vous connaissez peut-être Mythbusters. Tu sais, dans, fois, dans Mythbusters, il y avait un warning, science content. Là. Mais ici, je vais avoir un petit warning, teacher moment. Le jeu, c'est ce que je disais tantôt que je vais vous en reparler, est rempli de petites vidéos documentaires. Tu commences le jeu, tu rencontres ton renard, tu fais le petit bout de gameplay là, où est-ce que tu te sauves de l'ours. Puis là, ploup, t'as un pop-up dans le bas de l'écran qui est vraiment pas très intrusif, mais qui dit que tu peux passer sur le bouton... je l'appelle le bouton select, là, par déformation professionnelle sur la manette de Xbox, là, mais la flèche par en arrière, mettons.
Back, ouais.
Pour voir la petite vidéo. Puis t'as une petite vidéo de peut-être une minute ou deux qui, dans ce cas-là, le petit renard, t'as un petit renard article qui court, là, un vrai vidéo, puis avec de l'information, un petit peu documentaire. Puis là, sur des animaux que tu rencontres dans le jeu, sur les peuples que tu rencontres, sur les légendes que tu vis finalement. Fait que je les ai pas écoutés, là, parce qu'on était vraiment dans le gameplay avec ma blonde, mais c'est le genre de choses que tu fais juste l'existence de ça est quand même intéressant. Puis là, t'en regardes des petits bouts, puis c'est bien fait, ça donne le goût. Puis probablement que quand on va jouer au DLC, on va peut-être bien prendre un petit bout de temps juste pour voir les vidéos qu'on n'a pas vues avant. Mais c'est de la vraie information. Là. C'est de l'éducation, c'est de la pédagogie. Puis juste le fait que c'est là, moi, ça me plaît en tant qu'enseignant.
Ben, puis justement, on a parlé au dernier épisode du canal YouTube Extra Credits.
Oui.
Puis on dédie un épisode à ce jeu-là. Parce que justement, c'est un des rares exemples de matériel éducatif vraiment bien inséré. Parce qu'on parle souvent du gaming, de jeux qui sont supposés apprendre quelque chose. Puis c'est largement prouvé que ça fonctionne pas. Si t'essayes juste de faire apprendre quelque chose à quelqu'un à travers une forme de
jeu. De l'enfoncer dans la gorge.
Exact.
Aussi,
un jeu mathématique ou des trucs comme ça, ça sert à rien. Mais ce qu'on apprend dans les jeux, c'est toujours de l'information qui est tangentielle. Tandis que là, t'es tellement bien dans le contexte, t'es tellement investi, puis immédiatement, tu peux avoir de l'information additionnelle. Là, tu vas apprendre quelque chose au monde. Comme ça. C'est le meilleur exemple probablement actuel de ce genre d'apprentissage-là.
Tu vas chercher leur attention. quand le joueur est investi, comme tu dis, après ça, c'est plus facile.
Puis tu veux vraiment... Ça complète ce que tu joues. C'est pas juste comme, OK, j'ai ton attention, je vais te donner deux pages sur l'histoire française. C'est comme, non. Tu viens de voir un tambour tribal traditionnel. On va t'expliquer pourquoi il est si important que ça à cette tribu-là dans la vraie vie. Puis juste d'ouvrir cette porte-là, ben t'as toute l'attention, puis tu vas te rappeler de quelque chose.
Puis tu sais, moi, j'avais aucune idée c'était quoi le jeu. J'avais pas entendu parler avant. Il y a bien des jeux qui passent en dessous de mon radar, moins maintenant, mais beaucoup plus avant, parce que je m'intéressais moins à tout ce qu'il y a autour, là, quand je faisais pas de podcast, là. Puis j'avais aucune idée ce que c'était. J'ai juste vu que c'était beau, c'était coop, ça avait l'air un peu plateforme. Tiens, on l'essaye, c'était pas cher, go, c'est Noël, tu sais. Puis le truc du tambour, c'était ça, là. Je savais pas à quel point le jeu était vraiment comme groundé, lié à la réalité. Fait que j'arrive, c'est une des premières missions où que le gars dit, va chercher un tambour, là, il y a des petites personnes qui l'ont volé, puis ça, c'est bon, il y a une légende avec ces personnes-là, je l'ai pas regardé, mais c'est pas grave. Puis là, t'arrives au tambour, tu fais, ben c'est vrai, c'est un tambour autochtone. Tu sais, coudon, hein, ça a beau être un peuple en Alaska, c'est quand même très semblable à ce qu'on retrouve ici au Québec, parce que bon, tu sais, c'est surtout les Innus, là, il y a un paquet de tribus, de peuples, mais bon, il y a quand même des liens, là, le tambour en peau de.
Whatever.
De chevreuil, et reste un tambour en peau de chevreuil, là. C'est comme, ah ben oui, hein, c'est pas genre un tambour comme qui a l'air d'un tam-tam africain dans un jeu qui a pas rapport. Il y a vraiment quelque chose. Puis ça, c'est après, en cherchant, j'ai compris que, OK, ouais, ça a vraiment été fait avec des gens de cette communauté-là. Puis plus j'apprenais sur ce jeu-là, plus je trippais sur l'idée qu'ils ont fait quelque chose en grosse collaboration comme ça. Puis t'es en grosse collaboration avec des gens qui souvent sont peu mis à profit dans le monde du jeu vidéo. Là,
j'allais justement dire.
Ou la société en général.
C'est complètement stupide à quel point ils sont sous-représentés, puis ils sont juste. Partout, là. On est chez eux, là, façon on s'entend, là.
Ouais.
C'est leur terre à l'origine, ils sont partout autour de nous, on vit dans leur héritage sans le savoir, puis on sait rien, là.
Ouais, puis pour beaucoup de monde, on s'en fout, puis. C'est des affaires qui me font plus rire, là, quand tu vois les gens qui font un peu les caricatures de. Qui parlent des migrants ou quelque chose comme ça, puis ils disent retourne dans votre pays, là. Puis là, tu vois genre un Amérindien, un Autochtone qui dit. OK, puis toi, là, ça, ouais, c'est...
Good, quand est-ce que tu pars?
Ouais, c'est ça. Donc, si je veux un peu, là, pour essayer de conclure ça, là, revenir là-dessus, moi, de mon côté, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Le côté coop, le côté puzzle, plateforme, tout mélangé ensemble, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Puis qui a plu aussi à ma blonde. Tu sais, ma blonde, elle aime bien jouer à des jeux, mais c'est pas la gamer qui joue n'importe quel style. Tu sais, si c'est trop violent, elle aime pas ça. Le petit côté cute aussi qui était là, il a beaucoup plu. Ben, m'a beaucoup plu aussi, là, le côté artistique, je trouvais ça intéressant. Moi, le côté historique, folklorique, ça allait me chercher. J'aime beaucoup l'histoire, là, je pense qu'on s'en doute un peu. Mais le folklore, les légendes, surtout au niveau des Premières Nations, moi, ça me fait triper. Puis là, ben, on avait quelque chose de vraiment, vraiment cool là-dessus. Son niveau, de façon plus générale, en cherchant un peu, j'ai lu qu'au niveau des critiques, c'était assez mitigé. En général, les gens, mettons, les critiques, mettons, professionnels, tripaient sur les mêmes aspects que j'ai parlé puis que j'ai trippé. Les critiques qui venaient de Monsieur, Madame, tout le monde, un peu comme moi, là, parlaient beaucoup de la frustration qu'il y avait sur les puzzles. Des contrôles, des fois, qui répondaient pas super bien. Puis moi, j'ai vraiment pas vécu ça du tout. Puis c'est peut-être parce que, justement, j'avais pas à faire le back and forth entre les deux personnages, ce qui fait que tes contrôles, peut-être, étaient plus reliés à celui que je faisais, puis j'avais pas besoin de me réadapter, tu sais, à la façon dont le personnage bougeait. Surtout un peu plus loin dans le jeu, où est-ce qu'il y a un personnage qui change beaucoup de sa façon de se contrôler. Il y a peut-être quelque chose de bizarre quand tu passes entre les deux. Moi, j'ai vraiment pas vécu ça. La frustration des puzzles, ben c'est sûr, on était deux, peut-être, pour réfléchir, c'est plus facile, parce qu'en échangeant, on trouvait peut-être des solutions plus vite, puis, tu sais, on connaissait plus chacun de nos personnages puis ce qu'ils pouvaient faire, fait que peut-être qu'on avait moins de frustration. Puis tu sais, quand il y en a un qui tombait une couple de fois de suite, ben on trouvait ça drôle, on riait de l'autre un peu, tu sais, ça c'était autour de l'autre de se planter 4-5 fois de suite dans
la
même
on riait de l'autre puis de la petite fille qui pleure
là. La petite fille qui pleure, la chica pleure. Donc tu sais, moi j'ai vraiment pas ressenti cette frustration là en jouant, j'ai pas ressenti le problème des contrôles. Puis tu sais, on s'entend là, comparé à des critiques professionnelles, j'ai vraiment pas le même niveau d'aptitude au niveau de la manette là, j'ai beau jouer pas mal, j'ai pas à ce niveau là. Fait que je pense qu'il y a peut-être quelque chose au niveau du co-op qui fait que c'est plus simple, puis qu'en changeant pas de personnage tout le temps, il y a comme les frustrations qui partent. Fait que je me demandais si c'était peut-être ça qui faisait la grosse différence, parce que moi, j'ai bien aimé.
Donc aujourd'hui, tu nous le recommandes en co-op?
Moi, je le recommande en co-op. Je l'ai pas joué tout seul, fait que je sais pas. Essayez-le, puis vous me le direz. Mais en co-op, là, vraiment un bon jeu. Je dirais que si l'histoire, les peuples autochtones, c'est pas quelque chose qui vous intéresse, on perd peut-être une grosse partie de l'attrait du jeu, là, parce qu'au niveau du gameplay, ben, c'est du platforming qui est bien, mais qui est pas rien de totalement nouveau. Là. Je veux dire, tu grimpes après des esprits, tu grimpes après des cordes à un moment donné, mais on s'entend que...
Ça
reste que si tu enlèves le skin d'esprit, c'est une corde. T'sais. Mais avec l'histoire et tout ça, ça devient plus intéressant. Je pense que si tu n'aimes pas ça ou si ça t'intéresse pas, tu risques de trouver le jeu moins intéressant aussi. Moi, je dirais aussi, là, finalement, que le côté éducatif du jeu, c'est ce qui m'a fait le plus sourire. Là, je l'ai dit tantôt, hein, j'ai beau être en vacances, je reste dans l'âme un prof, puis il y a un petit côté le fun de là. Semblerait aussi là, que Upper One, qui est la compagnie qui l'a développé, voudrait continuer à développer ce genre de jeu-là, qui va chercher des légendes, du folklore pour mettre ça dans un jeu. Ils appellent ça des World Games. Là, fait que j'imagine qu'ils vont peut-être vouloir aussi là, élargir sur d'autres peuples autochtones ou d'autres peuples indigènes d'ailleurs dans le monde. Puis je trouve que c'est une méchante bonne idée parce que c'est quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup des jeux où est-ce que tu as de l'éducatif dans un gameplay le fun à jouer.
Donc, avec le jeu de la chasse-galerie.
Ouais, voilà. Ça serait intéressant. Avec un rating là, mature pour les sacres. Là,
c'est ça.
Donc, je finis là-dessus. Jeu-là, moi, je donne un 3.5 pattes de divan, mais avec le biais du gars qui était bien content de jouer avec sa blonde sur un divan.
Donc, 3 pattes et une ouïa.
3 pattes et une ouïa. Ça tombe bien à Ouya, je l'ai débranché pour brancher mon Steam Link, fait que je peux m'en tenir
pas sur divan.
Mais je pense qu'officiellement, la Ouya, c'est officiellement fini, vu qu'ils ont été achetés par Razer. Là.
Ouais.
Fait qu'on va pouvoir mettre les Ouya dans le garde-robe.
OK.
Ouais, c'est une bonne idée. J'ai demandé à ma blonde de donner...
Free at last!
J'ai demandé à ma blonde de donner une note au jeu aussi, puis elle trouvait ça weird de donner une note sur 4. Elle m'a dit que j'aurais préféré une note sur 18, j'ai pas trop compris. Puis elle m'a toujours pas plus donné de note non plus. Bref, elle a aimé ça, mais j'ai rien de plus précis à vous donner.
C'est pas un bon sport, hein?
Non, c'est pas comment ça marche.
C'est pas comment ça marche.
Pourquoi tu parles avec tes chums aux deux semaines, là?
Donc, pour du feedback ou du hate mail, on n'a même pas reçu de hate mail encore à date, ça doit être parce qu'on est vraiment bon. Je donne quelques possibilités sur Twitter au twitter.com/divanquest, sur Facebook au facebook.com/divanquest ou par courriel au divanquest@gmail.com. Pour notre podcast ou un paquet d'autres podcasts québécois au rzodoweb.com. Sinon, ben bientôt le divanquest.com, je le répète à chaque fois, un jour ça sera plus en activité. Puis sur iTunes, commentez, créez les petites étoiles. On est content, on aime ça.
Alors, je sais.
À la prochaine.
À dans 2 semaines.